Bonjour, bienvenue sur Ça dépend de toi, balado sur lequel, à chaque semaine, on va jaser de sujets qui nous touchent tous de différentes façons, à différents degrés. C'est une belle occasion de cheminer ensemble à travers les capsules, les entrevues, les exercices que je vous proposerai. C'est une belle opportunité aussi de retrouver sa pleine puissance et de reprendre les rênes de sa vie. Je suis Sonia Tremblay, coach professionnelle de transformation, thérapeute et pédagogue. Bienvenue ici avec moi. Bonjour, bienvenue à ce cinquième épisode du balado « Ça dépend de toi ». Comme je l'ai déjà mentionné, puis je vais certainement le mentionner encore, le titre fait référence à la croyance que j'ai, qu'on a tous un important pouvoir sur ce que l'on vit. Par le choix de nos réactions, nos attitudes, il est possible de faire correspondre la vie dont on rêve avec la vie que l'on vit. Je dis comportement, attitude, en fait, je devrais dire l'attitude avec un grand A. C'est comme ça que ça résonne en moi. Une attitude, c'est un état intérieur que je vais créer et installer en moi et qui va accueillir ensuite ce que je vis. Les émotions, les situations, les sensations, en fait, tout ce qui a un pouvoir de m'affecter. J'ai entendu un jour que notre attitude est la seule chose sur laquelle nous avons un pouvoir. Puis ça mérite réflexion. Au fil des années, au fur et à mesure des expériences qu'on vit, notre attitude va possiblement évoluer, se transformer, se modifier dans un sens ou dans l'autre, d'une façon positive ou négative. Puis il y a aussi des gens qui ne changeront pas vraiment, peu importe ce qui leur arrive ou subtilement. Ça dépend de leur personnalité, ça dépend aussi de ce qu'ils ont construit autour d'eux. Mais c'est quoi en fait l'attitude? Je l'expliquerai de cette façon-ci, c'est la façon qu'on choisit d'aborder la vie et ce qu'elle nous amène, ce qui vient avec. C'est aussi comment on la perçoit, cette vie-là. Dans le film Forrest Gump, quand il est assis sur le banc, à un certain moment, il dit « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Tu ne sais jamais ce que tu vas avoir. » Bien, l'attitude, c'est comment on va réagir à justement dans quel chocolat on va mordre. Il y en a qui vont dire « Ah, celui-là, il était moins bon, mais bon, c'est normal. Hein? Dans une boîte, ça se peut qu'il y en ait des moins bons. » Puis ils vont se dépêcher d'en goûter d'autres pour aller chercher un autre goût, une autre découverte. Puis il y en a d'autres qui vont se mettre à sacrer, puis à dire que ça arrive juste à eux autres, puis que ces boîtes-là, c'est de l'arnaque, c'est toujours du mauvais chocolat. C'est ça, une attitude. C'est très simple comme exemple, effectivement. Mais en arrière de ça, il y a la question. Qui est celle-ci? À quoi ça sert de grimper d'un rideau, que ce soit pour une boîte de chocolat ou pour toutes sortes de choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise? Des choses, des trucs qu'on souhaiterait différents ou différents, mais ça ne relève absolument pas de notre sphère d'influence. Combien de fois par jour est-ce qu'on passe à grincer des dents ou à frissonner à cause de décisions de nos parents, de nos dirigeants, de nos voisins, les feux de circulation qui sont mal synchronisés, un statut Facebook trop politique, trop ésotérique, trop fleur bleue, trop agressif, d'un peut-être même pas vraiment ami. Ça mérite réflexion, ça aussi. On va analyser ça tranquillement, puis on va regarder quelle est l'énergie qu'on gaspille dans ça. Tu sais, l'énergie qu'on met là-dedans à râler sur un paquet d'affaires, bien, on n'est pas en train de l'investir dans ce qui compte pour vrai. Nos relations privilégiées, nos domaines d'études, nos passions, nos activités, celles qui nous nourrissent, qu'on trouve agréables. Donc, je reviens à ma question. Pourquoi on ne lâche pas le morceau. Pourquoi on conserve des attitudes de pitbull, même quand ce n'est pas vraiment nécessaire, disons, de se mettre dans ces états-là? Ça peut être ça, puis ça peut être la personne qui se plaint constamment, qui se noie dans ses chaudières de larmes, puis qui dit qu'elle voudrait donc que ce soit différent. Mais ça aussi, je risque de vous le répéter souvent, on ne conserve pas des habitudes ou des comportements qui ne nous apportent rien. L'humain ne fait pas ça. Alors, les comportements qu'on choisit, puis qu'on choisit de garder, c'est parce que consciemment ou non, ils nous procurent quelque chose. Dans la pratique, dans ma pratique des dernières années, que ce soit en thérapie ou en coaching, j'ai vu bon nombre de personnes qui ont tout à coup réalisé pourquoi elles faisaient ce qu'elles faisaient, qu'elles demeuraient dans des zones pas toujours bénéfiques. Elles ont réalisé ce qu'elles en retiraient. Je vous donne l'exemple de cet homme qui travaillait sans relâche. Il travaillait tout le temps jusqu'à l'épuisement. Puis là, au moment de l'épuisement, il ne pouvait plus travailler, prendre un congé de maladie, se remettait sur pied, puis il repartait travailler avec plein de bonnes intentions et ça recommençait de plus belle jusqu'à un nouvel épuisement et ainsi de suite. Il ne comprenait pas pourquoi ça se passait toujours comme ça. Il ne comprenait pas le cycle jusqu'à ce qu'il réalise deux choses. Un, il avait toujours été gratifié pour ce qu'il faisait. Sa qualité d'être humain, il la ressentait dans sa capacité à faire beaucoup et à faire bien. Puis, il s'est rappelé que les seuls moments où il avait le droit de se reposer, qu'il recevait de la tendresse, c'était quand il était malade. Lui a enregistré ça, ces informations-là, quelque part en lui, depuis toujours, puis il se les faisait revivre périodiquement. C'est quand même fort ce qui se passe dans notre inconscient. Puis il ne faut pas sous-estimer ce qui est enregistré en nous. Il y en a une autre, une autre patiente, elle souffrait d'une maladie dégénérative, pardon. Puis on lui disait que ce serait bon qu'elle bouge plus. Puis elle disait, je ne suis pas capable de me mettre en action, j'y arrive pas. Puis on a finalement, par différentes questions, on en est arrivé à cerner que si elle bougeait, puis elle se mettait à être active, les gens ne la verraient plus comme une personne malade et peut-être qu'ils ne s'occuperaient plus d'elle. Donc, encore une fois, on a la preuve que nos réponses sont en nous, mais on ne sait pas toujours comment elles agissent. Fait, il y a de ça plein d'exemples. On connaît tout un monsieur Bougon ou une madame Baboune. Probablement que c'est un besoin d'être écouté, reconnu. C'est sûrement pour recevoir parfois de l'approbation ou de la sympathie ou juste pour se sentir en vie qu'on a une sorte de pouvoir. Quand on grogne contre quelque chose, ça peut nous donner l'impression qu'on a du pouvoir. Les raisons de réagir puis de choisir tel ou tel type d'attitude, il y en a plein. Puis les faits que ces attitudes-là ont sur notre environnement, sur notre entourage, bien, c'est pas négligeable. Je dois vous dire que, personnellement, j'ai passé quelques bons passages à vide, psychologiquement douloureux que physiquement douloureux. Et pour moi, ceux qui me connaissent le savent, un ne va pas sans l'autre. Il y a un état de détresse psychologique qui amène à un certain point, son lot de douleurs physiques. Et ça, c'est souffrant, c'est angoissant et c'est incompréhensible. On ne comprend pas ce qui se passe. Puis, je me rappelle d'avoir été si enfoncée dans ma souffrance que les moments de plaisir, c'était comme des intrus dans ma journée. Je les trouvais louches. Je me disais, oh mon Dieu, faut pas que je les apprécie trop, ils vont partir. Fait que moi, comment je les prenais, ces moments-là, c'était qu'il fallait que je m'en méfie. Ils ont été longues et pénibles, ces années-là. Je me rappelle avoir pensé que jamais je ne reviendrais la personne, je ne redeviendrais la personne que j'étais avant. Je me rappelle aussi de ne plus avoir assez d'énergie pour imaginer que je continue comme ça. Puis on me disait que j'avais tout pour être heureuse. C'est vrai, peut-être, de l'extérieur, j'avais tout pour être heureuse, mais je ne l'étais pas. Puis je me suis laissée enfoncer dans cette boîte-là. J'ai eu besoin d'aide médicale, j'ai eu besoin d'aide psychologique pour remonter la pente. Ça s'est fait lentement, un assez long processus. Puis j'ai enfin eu, à un moment donné, la force puis la possibilité de choisir. Qu'est-ce que je souhaitais pour ma vie? Voir le verre à moitié vide ou le voir à moitié plein? Faire mon bilan journalier à partir de ce qui avait bien été ou bien à partir de ce qui m'avait amené de l'anxiété. Ça aussi, c'était un choix que je devais faire. Puis je vais être la dernière qui va vous dire que c'est facile. Parce que je vous entends dire, ben voyons, ça, c'est pas si facile que ça. C'est vrai, c'est pas facile. Il n'y en a pas d'arc-en-ciel dans ça. Ça fane des arcs-en-ciel. Mais je vais être la première à vous dire que ça se peut. Il faut de la patience, de l'exercice mental, une hygiène de vie d'action, d'activité, puis une façon différente d'aborder les choses. Aujourd'hui, je sais que tout passe. Aujourd'hui, je peux dire que les mauvais chocolats en boîte, ils servent à mieux apprécier les bons. Puis que quand il n'y en a plus, il reste toujours une merveilleuse possibilité. C'est apprendre à faire notre sorte préférée. Je vous offre un modèle dans les fichiers qui accompagnent la balado pour que vous puissiez, vous aussi, avoir une base pour créer vos listes de gratitude et vos programmations pour la journée à venir. Puis, je vous souhaite de choisir l'attitude gagnante pour vous, celle qui va vous permettre de vivre la vie que vous désirez. À bientôt! Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Pour continuer à demeurer en contact, je vous invite à me suivre sur Instagram au soniatremblay.ca, sur Facebook, Sonia Tremblay Mieux-être, et je vous suggère aussi de venir me rejoindre sur mon site internet www.soniatremblay.ca afin que nous nous connaissions davantage. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode.